Bonjour à toutes et à tous, au micro Mouamadou Oumfa pour vous présenter Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 4 mars 2024. Il est 7h, temps universel, voici le sommaire. Au Burkina Faso, 170 personnes ont été exécutées lors d'attaques de 3 villages la semaine dernière dans le nord. Au Mali, un colonel de l'armée a été arrêté. Il est auteur d'un ouvrage dans lequel il évoque des exactions de l'armée contre des populations civiles. Au Cameroun, 17 personnes seront jugées pour le meurtre du journaliste Martinez Zogo, retrouvé mort en janvier 2023, a décidé le tribunal militaire de Yaoundé.
Il y a eu une préméditation, il y a eu une organisation mise en place, il y a eu une filature, il y a eu un enlèvement, une séquestration, une torture, un décès. On estime que...
À suivre, les réactions des avocats de la famille du disparu et des accusés. Ce sera dans la partie magazine, en deuxième partie de cette édition. À Haïti, le gouvernement a décrété dimanche l'état d'urgence ainsi qu'un couvre-feu dans la capitale Port-au-Prince à la suite de l'évasion de plusieurs milliers de détenus. Dans une dizaine de minutes, les nouvelles économiques avec Nathalie Barge et l'actualité sportive présentée par Élisée Oumpatine. Mais pour commencer, le journal. Au Burkina Faso, au moins 170 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques dans le nord. L'annonce a été faite ce week-end par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Waïgouya, dont relèvent les villages attaqués. De Ouagadougou, les précisions de notre correspondant Lamine Traoré.
L'attaque des villages de Komsilga, Nodin et Soro, relevant tous du département de Tiou, province du Yatenga, dans la région du Nord, est intervenue le 25 février. Selon le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Waïgouya, le bilan provisoire est de 170 morts, en plus des personnes blessées et les divers dégâts matériels connexes. Le procureur Ali Benjamin Koulibaly, qui a aussitôt ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces attaques, affirme que des équipes de son parquet et des services d'enquête de la police judiciaire se sont rendus dans les différents villages concernés afin de procéder à toutes les constatations et de recueillir tous les éléments de preuve disponibles. Il a lancé un appel à toutes les personnes qui disposeraient d'éléments ou d'informations à les communiquer aussi bien directement à son parquet qu'aux différents services de police judiciaire de son ressort. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Mali, un colonel de l'armée, Alpha Yaya Sangaré, a été arrêté samedi soir à Bamako. Il est l'auteur d'un livre de 400 pages intitulé « Mali, le défi du terrorisme en Afrique » publié fin 2023. Plus de détails avec Nani Talani.
Dans cet ouvrage qui a fait l'objet d'une séance de dédicace le 24 février à Bamako, le colonel Sangaré évoque des exactions de l'armée contre des populations civiles, ce qui a suscité la colère des militaires putschistes au pouvoir depuis 2020. Certains passages citent notamment des rapports d'organisations internationales de défense des droits humains documentant les abus de l'armée lors d'opérations antiterroristes. Le colonel Sangaré a été placé en détention après un communiqué du ministère de la Défense condamnant la publication de son livre. Le ministère a dénoncé les prétendues incriminations graves de violation des droits de l'homme par les forces armées maliennes avec la complicité de la hiérarchie militaire, affirmant se désolidariser de ces accusations.
En Tunisie, un projet de loi encadrant la création et le financement des associations inquiète plusieurs organisations de la société civile. Le projet place les ONG tunisiennes et étrangères sous le contrôle et la supervision des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. La création d'une association et l'obtention d'aides extérieures seront soumises à des autorisations préalables. Le texte censé remplacer un décret-loi adopté en 2011 ayant permis l'émergence de 25 000 associations, dont beaucoup ont contribué à la transition vers la démocratie après la révolution et la chute de Zine El Abidine Ben Ali, est en cours d'examen au Parlement. Ses promoteurs, encouragés par le président Kais Saied, qui soupçonne le monde associatif de servir l'agenda des puissances étrangères, assurent vouloir lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 6 pèlerins ont péri dimanche sur l'île Maurice lorsqu'un incendie s'est produit lors d'un rituel religieux hindou, a annoncé la police. Un chariot de bois et de bambou transportant des statuettes de divinités hindoues a pris feu après être entré en contact avec des câbles électriques à nu, a déclaré le commissaire de police Anil Kumar Deep à la télévision nationale. L'accident a fait 6 morts et 7 blessés, dont un qui est dans un état grave, a-t-il précisé. Les pèlerins voyageaient à pied vers Grand Bassin, un lac considéré comme sacré par la communauté hindoue de l'île, où doit se tenir la fête religieuse de Shivaratri le 8 mars.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Haïti, le gouvernement a décrété dimanche l'état d'urgence et un couvre-feu pour reprendre le contrôle de la capitale Port-au-Prince après l'évasion de plusieurs milliers de détenus d'un centre pénitentiaire attaqué par des gangs armés, lors de laquelle au moins une dizaine de personnes sont mortes. Le couvre-feu a été annoncé en raison de la dégradation sécuritaire, notamment à Port-au-Prince, caractérisée par des actes criminels de plus en plus violents perpétrés par les gangs armés, ainsi qu'en tenant compte de l'évasion de prisonniers dangereux, action mettant en péril la sécurité nationale selon le gouvernement. Depuis jeudi, des gangs armés s'en prennent à des sites stratégiques, disant vouloir renverser le premier ministre contesté, Ariel Henry. Arrivé au pouvoir depuis 2021, ce dernier aurait dû quitter ses fonctions début février. Ici aux États-Unis, Nikki Haley, l'unique concurrente de Donald Trump aux primaires républicaines, a remporté dimanche la primaire à Washington, la capitale fédérale. Elle a ainsi décroché sa première victoire dans la course à l'investiture face à l'ex-président Firmin Koyaweda.
L'ancienne ambassadrice de l'ONU sous l'administration Trump a obtenu 63% des voix lors de cette primaire, selon le site Politico qui cite des responsables du parti à Washington. Cette victoire symbolique dans la capitale fédérale intervient à 2 jours du Super Tuesday, au cours de laquelle les électeurs américains sont appelés à voter dans 15 États. Dans un communiqué, l'équipe de campagne de Nikki Haley a affirmé qu'il n'est pas surprenant que les républicains les plus proches des dysfonctionnements de Washington rejettent Donald Trump et tout son chaos. Nikki Haley a été couronnée reine du Marais, a de son côté déclaré l'équipe de campagne de Donald Trump en référence à l'un des slogans de la campagne électorale du milliardaire républicain en 2016, Drain the Swamp, autrement dit, débarrasser Washington de ses intrigues et conflits d'intérêts. Les résultats de ce soir à Washington DC réaffirment l'objectif de la campagne du président Trump. Il va assécher le marais et donner la priorité à l'Amérique, ajoute son équipe dans un communiqué, précisant que l'immense majorité des habitants de Washington DC sont démocrates et la ville ne compte qu'un petit nombre de républicains inscrits. La ville n'a jamais voté majoritairement pour un candidat républicain à la présidence.
Des négociations ont repris dimanche en Égypte en vue d'obtenir une trêve entre Israël et le Hamas pendant le Ramadan dans la bande de Gaza. Les bombardements israéliens se poursuivent alors que le territoire palestinien est menacé de famine, selon l'ONU. Gaby Dorsil.
L'objectif est de parvenir à une trêve avant le début du mois du jeûne musulman, le Ramadan, qui commencera le 10 ou 11 mars prochain. Les Israéliens ont accepté les éléments de l'accord, a assuré samedi un haut responsable américain à Washington, mais Israël n'a pas confirmé ces informations. Israël réclame que le Hamas fournisse une liste des 130 otages encore retenus à Gaza, y compris plus de 30 qui seraient morts. En échange d'une libération d'otages, le Hamas réclame un cessez-le-feu définitif et un retrait militaire israélien de Gaza, ainsi que le retour dans le nord de Gaza des Palestiniens déplacés et une augmentation de l'aide humanitaire de l'ordre de 400 à 500 camions par jour. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé samedi sa grave préoccupation et appelé à la livraison sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle aux territoires palestiniens assiégés. À Rome, le pape François a également appelé à garantir un accès sûr à cette aide pour la population dans le besoin urgent. Plusieurs pays ont mené des parachutages d'aide sur la bande de Gaza ces dernières semaines, notamment les États-Unis, samedi.
La vice-présidente américaine Kamala Harris a appelé à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Étant donné l'ampleur des souffrances à Gaza, il doit y avoir un cessez-le-feu immédiat pour au moins les 6 prochaines semaines, ce qui est actuellement sur la table des négociations entre Israël et le Hamas, a déclaré dimanche Mme Harris. Elle a également demandé au gouvernement du premier ministre israélien Benjamin Netanyahu de prendre des mesures pour accroître l'aide dans la bande de Gaza menacée de famine selon l'ONU. Elle a ajouté qu'Israël devait ouvrir de nouveaux points de passage et ne pas imposer de restrictions inutiles à l'acheminement de l'aide humanitaire. La Chine a déclaré ce lundi espérer de nouvelles relations, de meilleures relations avec les États-Unis, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle américaine organisée en novembre prochain. La stabilisation et l'amélioration des relations entre la Chine et les États-Unis est quelque chose que tout le monde suit de près et appelle de ses voeux, a déclaré Lu Qijiang, le porte-parole de la session annuelle du Parlement chinois, en réponse à une question sur le sujet. Les relations sino-américaines se sont détériorées ces dernières années en raison de plusieurs dossiers, mais les deux pays semblent désireux de renouer le dialogue avec l'envoi l'an dernier par Washington de plusieurs hauts responsables à Pékin et une rencontre en novembre entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping en Californie. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, un condensé des nouvelles économiques, la Minute Éco, c'est avec Nathalie Barge.
Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la dette publique de l'Afrique va rester au-dessus de son niveau pré-pandémique ces deux prochaines années. Lors d'une conférence à Victoria Falls, la direction des politiques macroéconomiques a appelé les pays africains à collaborer avec leurs partenaires internationaux pour lutter contre le surendettement. Les ministres des Finances prévoient de demander une refonte du système financier mondial pour l'adapter aux besoins du continent. Mastercard et MTN ont signé un accord visant à connecter des millions de personnes et petites entreprises en Afrique pour effectuer des transactions financières. Grâce à la base globale comptant plus de 290 millions d'abonnés et 60 millions d'utilisateurs mensuels du portefeuille électronique Momo, l'accord aura un impact sur 13 marchés en Afrique, dont le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la République du Congo et le Rwanda. Les émissions de carbone des opérateurs de réseaux mobiles ont diminué de 6% au niveau mondial entre 2019 et 2022, selon le rapport Mobile Net Zéro, révélant des variations régionales. L'Europe est en tête avec une réduction de 50% grâce aux progrès énergétiques. En Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les émissions ont diminué de 20 à 30%. En Chine et dans la région Asie-Pacifique, elles ont globalement diminué malgré l'augmentation de l'utilisation des données.
Et maintenant, la page sportive, c'est avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Mouhamadou et bonjour à tous.
Du foot pour commencer, la phase des groupes interclubs de la CAF s'est conclue hier.
Oui, avec la sixième et dernière journée de la phase du groupe et en Coupe de la CAF, trois tickets restaient à prendre. L'un est allé aux éditions du futur FC Sans Pitié devant les Libyens d'Ali Benghazi, qu'ils ont nettement battu 5 buts à 0. Les deux autres, aux Ghanéens de Turim FC et au Niger de Rivers United. Les deux clubs se sont affrontés dans la poule C avec une victoire de 2 buts à 1 en faveur du club nigérian de Port Harcourt. Avec 12 points chacun, ils valident leur qualification pour les quarts de finale devant les Tunisiens du club africain accroché 1-1 à domicile par les Angolais de Lobito. Et puis, c'est la renaissance du Berkane qui finit en tête du groupe D suite à son succès 3-0 face au Stade malien.
En Ligue des Champions, il restait aussi 3 tickets à prendre et l'Espérance de Tunis y fait partie.
Le club tunisien, victorieux 1-0 des Soudanais d'Al Hilal, termine deuxième du groupe C, derrière les intouchables Angolais du Petro Atlético de Luanda, qui n'ont encaissé aucun but durant cette phase de poule. Les deux derniers qualifiés sont les deux clubs tanzaniens, Young Africans, dans le groupe T, malgré sa défaite devant Al Ahly du Caire, et dans la poule B, Simba, qui a su classer 6-0 les Botswanais de Twining Galaxy. Une première pour le football tanzanien. A noter que pour la première fois depuis très longtemps, aucun club marocain et algérien ne joueront les quarts de finale de cette compétition.
Fin également hier des mondiaux d'athlétisme en salle à Glasgow en Écosse.
Et l'Afrique s'en sort avec 7 médailles. 2 en or, 2 en argent et 3 en bronze. En triple saut, Hugues Fabrice Zango remporte l'or après un saut à 17 m53 réalisé à son 5e et avant-dernier essai pour devancer l'Algérien Yasser Triki, classé 2e. Le Burkinabé, déjà sacré au Mondiaux en plein air l'an dernier à Budapest, sera sûr à quelques mois des Jeux de Paris. l'Éthiopienne. Douguma Gemeshu a aussi élevé son niveau pour remporter le 800 mètres en 2 minutes devant l'Écossaise Germa Ricci et la Béninoise Noélie Yarigo qui s'offre le bronze. Une première pour le Bénin au championnat du monde en salle. Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Mouhamadou Oumfa, toujours avec vous. Maintenant, la partie magazine. Au Sénégal, la date de l'élection présidentielle n'est toujours pas connue. Entre angoisse et inquiétude, les Sénégalais attendent. L'opposition et la société civile continuent de mettre la pression sur les autorités. Le point avec notre correspondant à Dakar, Wahani Johnson Sambou.
Les choses ne se sont pas passées comme espéré par les leaders de l'opposition. Le rassemblement géant organisé samedi s'est terminé en queue de poisson. La manifestation a viré à la bagarre entre partisans d'Ousmane Sonko et militants de Khalifa Sall. Des milliers de personnes se sont pourtant déplacées pour exiger du pouvoir le respect du calendrier électoral. C'est la déception teintée de colère pour certains manifestants. Nous sommes ici uniquement pour réclamer une date au chef de l'État pour une élection libre et inclusive, donc nous regrettons ce qui s'est passé aujourd'hui. Les Sénégalais sont à l'écoute de Macky Sall après le consensus du dialogue autour du 2 juin avec une reprise partielle du processus électoral. Mais ces décisions divisent le pouvoir et ses alliés, comme le confirme Mamadou Gissé, président d'une formation membre de la coalition au pouvoir.
Qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, le processus est réouvert. Maintenant, la façon de reprendre le processus, ils ont mis des gants, mais moi, à mon avis, ils devaient tout simplement avoir le courage d'ouvrir directement le processus.
Le président sénégalais devrait bientôt annoncer une date pour la présidentielle, mais en attendant, il a réitéré son engagement à quitter le pouvoir le 2 avril, une décision que déplore Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil.
Un capitaine n'abandonne jamais son bateau, quelle que soit la température du bateau. Ce qu'on attend du président public, c'est qu'il fixe une date conforme à la Constitution, mais également qu'il organise les élections et qu'il organise en bonne et due forme une passation de fonction entre lui et bien sûr le nouveau président qui sera désigné par le peuple sénégalais qui est en fin de compte M. Souverain.
Il est encore difficile de dire la date d'installation et les conditions de l'élection du futur chef de l'État sénégalais. Pour l'heure, le président Macky Sall persiste et répète qu'il va quitter le pouvoir le 2 avril à la fin de son mandat, ce qui va placer le pays dans une situation inédite et pas du tout prévue par la Constitution. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, la mort de l'opposant Yaya Diallo, président du Parti Socialiste Sans Frontières, suscite des multiples réactions. Certains acteurs politiques dénoncent l'assassinat ciblé d'un farouche opposant et un mauvais signal envoyé aux opposants qui veulent s'inscrire dans la même logique radicale. Une situation qui va entamer la crédibilité du processus électoral en cours, ajoute d'autres. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point depuis N'Djamena.
Yaya Diallo a été assassiné simplement pour sa lutte pour le mieux-être des Tchadiens, pour question de liberté, pour question de justice.
Max Kamkoui, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès. Les citoyens déplorent également la mort d'un opposant qui lutte depuis le règne de Déby Père pour la paix, la bonne gouvernance et la démocratie au Tchad.
Il était assassiné parce qu'il défendait ses convictions, parce qu'il s'oppose à cette mauvaise manière de gouverner. Que justice soit faite.
Nous appelons la communauté internationale. Aujourd'hui, c'est Yaya Diallo. On ne sait pas demain à qui le tour.
On regrette vraiment ce qui s'était passé. Quelle que soit la raison, cela ne devrait pas arriver. C'est un citoyen comme tout autre, un homme politique. On devrait plutôt privilégier le dialogue.
Pour les partis politiques membres du groupe de concertation des acteurs politiques, l'assassinat de Yaya Diallo participe à l'objectif ultime du régime de transition de l'équité tout acteur gênant. Pour Dr Nassour Ibrahim Koursami, Yaya Diallo a été tué parce qu'il se plaint régulièrement de l'instrumentalisation du système judiciaire qui opprime le peuple tchadien.
Nul ne peut nier que la Cour suprême est sous les bottes du président de transition qui l'exploite à sa guise et l'oriente au gré de ses intérêts contre tout justiciable tchadien ainsi que les acteurs politiques. C'est seulement à cause de cette prise de position que Yahya a été lâchement tué.
Allégation balayée d'un revers de la main par le gouvernement. La secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, Isabelle Ousna Kassiré, accuse l'opposant d'être l'instigateur en chef de l'attaque des locaux de l'Agence nationale de sécurité de l'État du 28 février dernier.
Le gouvernement considère que cette attaque a pour objectif de perturber le processus de transition dont le dernier virage est amorcé avec l'annonce du chronogramme des élections présidentielles. Tout en déplorant la tournure prise par ces événements malheureux, le gouvernement met en garde toute personne qui tenterait de remettre en cause le processus de transition, la paix et la stabilité du pays.
Pour les acteurs politiques, cette menace n'entend en rien leur détermination d'œuvrer pour le bien-être des citoyens tchadiens.
Pour nous, à la suite de Yahya Diallo, nous sommes tous engagés dans le couloir de la mort qui est fermé.
Max Kamkoui, président du parti Union des démocrates pour le développement et le progrès. Pour lui, l'assassinat de leur compagnon remet en cause le processus électoral en cours.
On a d'abord édicté un code électoral qu'on n'a pas vulgarisé. On n'a pas fait engager cela devant les parties prenantes, qui sont les partis politiques. Ce code électoral n'a même pas été inséré encore dans le journal officiel de la République, dont on s'apprête à prendre un décret, pourtant convocation du corps électoral. Et tout ça, ça a entaché avec l'assassinat de Yahya.
Membre influent du clan au pouvoir depuis 3 décennies, Yahya Diallo a perdu sa mère et son fils dans une attaque similaire il y a 3 ans. Maintenant, les autorités, par crainte de vengeance des proches de Yahya Diallo, multiplient des fouilles dans les quartiers, créant ainsi un climat de psychose généralisée dans la ville. André Kodoma Djingar pour VOA Afrique, N'Djamena.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Au Cameroun, 10 de personnes sont renvoyées devant le tribunal militaire de Yaoundé dans le cadre de l'affaire Martinez Zogo, le journaliste retrouvé mort en janvier 2023. La décision prise par le juge d'instruction met un terme à l'information judiciaire plus d'un an après la découverte du corps supplicié du défunt chef de la radio Amplitude FM. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
En déclarant close l'information judiciaire, le juge militaire a également requalifié les faits et retenu pour la première fois contre 2 des 17 personnes prévenues l'infraction de complicité d'assassinat de Martinez. Maître Calvin Diop, avocat des ayants droit de Martinez Zogo.
Nous avons adressé une demande de requalification exactement au mois de juillet-août. Nous avons indiqué que nous sommes dans une affaire avec un concours idéal d'infraction, à savoir que la torture a conduit à l'assassinat. Et il y a un principe de droit qui est le principe d'unité des poursuites. Il veut que quand on a plusieurs infractions qui sont enchevêtrées, c'est l'infraction la plus élevée. Ici, juridiquement, on ne pouvait pas retenir la torture alors que Martinez Zogo est décédé. On ne devrait que retenir l'assassinat.
D'après l'ordonnance de renvoi, les charges de complicité d'assassinat pèsent sur Justin Danwe, officier supérieur de la gendarmerie, et Martin Savom, maire de la commune de Bibé dans la région de l'Est. Maître Calvin Diop, avocat des ayants droit de Martinez Zogo.
Il y a eu une préméditation, il y a eu une organisation mise en place, il y a eu une filature, il y a eu un enlèvement, une séquestration, une torture, puis le décès. On estime que le juge devrait convenir de la requalification dans cette affaire.
Le journaliste et homme d'affaires Jean-Pierre Amrou Bellinga, présenté au début de cette affaire comme le principal commanditaire de la mort de Martinez Zogo, est plutôt jugé pour complicité de torture. Maître Charles Tchungang, avocat de Jean-Pierre Amourou Bellinga.
On a comme l'impression qu'il y a une pression, une précipitation pour qu'on arrête les enquêtes dans cette affaire. Mais qu'à cela ne tienne, des questions que nous avions posées en février 2023 demeurent. Qui a tué votre confrère? Nous savons que dans le dossier, il y a une scène secondaire du crime identifié. Mais où exactement l'a-t-on tué? Comment se fait-il que dans un dossier aussi important, il n'y a pas de traduction, nous n'avons pas assisté à l'autopsie.
La requalification des faits dans l'affaire reconforte quelque peu le pouls de Martinez Zogo, encore chagriné par la fin douloureuse du défunt qu'elle a vu venir. Diane Zogo, épouse de Martinez Zogo.
Lui-même me disait souvent, vous savez, je peux sortir le matin et ne pas revenir. Avant le décès de Martinez, j'ai écouté mon mari et j'ai trouvé que c'était assez violent. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es obligé de parler de ce dossier? Je trouve que celui-là peut t'apporter des problèmes.
Au sein de l'opinion, certains doutent de l'issue du procès. Simon Serge Soro, militant de l'Union des Populations du Cameroun, UPC.
Pour moi, c'est très bon d'avoir requalifié les faits, mais c'est insuffisant. Ça sent plus de la diversion qu'une volonté de résoudre les questions de fond.
Dans un communiqué, la défense de Maxime Eko-Eko, ancien directeur général des renseignements extérieurs, poursuivi pour complicité de torture, espère que le procès à venir sera l'occasion pour la justice de déterminer de manière claire les circonstances exactes, les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Gabon, la capitale Libreville suffoque sous une chaleur accablante. Les températures oscillent entre 30 et 40 degrés Celsius, du jamais vu pour les populations qui doivent en plus faire face à d'incessants délestages. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé.
Depuis son modeste atelier de coiffure du quartier Charbonnage à Libreville, le jeune Bernard travaille avec la peur des délestages devenus presque quotidiens.
Cette situation nous perturbe. Du coup, lorsque nous sommes en train de travailler, quand il y a coupé, surtout nous qui travaillons dans la clim, la chaleur, c'est compliqué et on ne peut pas bien coiffer. Au moins, on manque à gagner parce que lorsqu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas le client, on ne peut pas travailler dans la chaleur, c'est impossible.
Ces délestages se multiplient en pleine période de canicule avec des conséquences sur les appareils électroménagers. Samuel Mofouki en fait les frais, lui qui est déjà retraité.
Vous voyez, j'ai mon split qui est là, qui est gaspillé. La nuit, il y a la chaleur, la journée, il y a la chaleur, donc je suis embêté. En plus du split, j'ai ma machine à laver qui est tombée en panne aussi à cause de ces délestages.
La liste des dommages enregistrés par cette période est longue. Dans les ménages comme dans la rue, les Libreville se plaignent. Corinne est commerçante.
Il y a une chaleur qui ne dit pas son nom. En tout cas, vous voyez même comment je m'habille. Je suis obligée de m'habiller avec les décolletés comme ça parce que je ne peux pas bien m'habiller. Il fait tellement chaud. Même à la maison, la clim ne passe pas. Pire encore, le ventilateur, ça donne la chaleur. La clim, rien du tout. Je suis obligée de dormir sur les carreaux, même le sol.
Face à cette chaleur étouffante, chacun le parapluie. C'est le cas de Léon.
Avec des véhicules qui font longtemps sans faire des vidanges, donc elle fait des usines et tout et consorts, donc ça touche la couche de zone. Et là, c'est. La chaleur, elle est carrément pas possible. On n'a jamais vécu ça.
Pour Yannick, défenseur de l'environnement, la situation du moment impose à l'homme de nouveaux rapports avec la nature.
Tout ce que nous faisons subir à la nature nous rattrape finalement. Et que ça ne doit pas surprendre. Les gens, c'est aussi tout ça. Et puis, on balance les ordures partout, on fait n'importe quoi. La nature aussi nous parle, mais on n'écoute plus. Donc c'est dû à tout ça, quoi.
Dans un communiqué publié à la mi-février, la Société d'énergie et d'eau du Gabon avait alerté sur les arrêts momentanés de fourniture en énergie. Selon la SEG, les conditions climatiques actuelles, caractérisées par de fortes températures, perturbent la desserte en électricité du Grand Libreville. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Mouamadou Oumfa, ainsi va le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, www.voafrique.com. Sans oublier toutes nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et Twitter. Restez à l'écoute des programmes de VOA.